Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, nous sommes ici présents à 10h30 au Libre Journal des Controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker du Journal de Géopolitique Profonde. Il était avec Pierre Jovanovic qui nous a amené son célèbre coup de gueule. Heureusement qu'il est là, notre ami Pierre, et il a bien raison. Je salue bien entendu Arnaud qui est à la technique, le Steven Spielberg des techniciens. Il est là les samedis matins, essentiellement, si j'ai envie de le dire, tiens, essentiellement. Et enfin, vous avez au standard Patrice, l'homme à la belle écriture. Il attend vos coups de fil. Je sais que vous allez appeler, il attend vos mails. Il attend que vous réagissiez. Et je sais que vous allez réagir parce que nous avons eu ces dernières semaines de nombreux drames d'assassinats d'enfants, de pédocriminalité, de réseaux, de choses horribles qui se multiplient et multiplient aujourd'hui en France. C'est quelque chose sur lequel, ici à Radio Courtoisie, même les grands médias indépendants et libres, comme justement Radio Courtoisie, eh bien, alertons tout le temps, on dit de cela que c'est complotiste, machin, etc. Mais non, c'est une réalité. L'enfant, aujourd'hui en France, est vraiment le parent pauvre, si je puis dire, des politiques publiques. Non, j'irais peut-être même plus loin. Il y a une vision idéologique du régime républicain qui vise à sacrifier l'enfant comme avant le Christ, si je puis dire, comme à l'époque où l'Occident et le monde étaient païens et où avant l'arrivée du Christ et son sacrifice pour la terre, eh bien, on sacrifiait à tout va. C'est le retour des loges, c'est le retour des rituels, c'est le retour de l'inversion des valeurs. Enfin bref, ça l'est depuis 1789, il faut se dire les choses. Et donc, pour témoigner aussi de ces faits, je reçois un lanceur d'alerte, Dalila Sadok. Bonjour chère Dalila, comment allez-vous ?
Bonjour Mike, écoute, je vais le mieux possible, étant donné ma situation.
Justement, on va en parler. Pour les gens qui ne connaissent pas, chère Dalila, votre situation, racontez-nous ça.
Alors, je vais être succincte parce que j'ai assez, je pense, exposé mon affaire à travers le film Les Survivantes, notamment.
Mais voilà, vous avez tourné dans Les Survivantes de Pierre Barnérias, un film qui a fait, qui a eu un succès énorme. Voilà, allez le voir, peut-être, je ne sais pas s'il n'est pas en VOD ou des choses comme ça. Donc, allez-y.
C'est le cas, il est sur le site Citizen Light.
Voilà, Citizen Light.
Pour quelques euros, donc ça vaut le coup d'aller le voir. Donc, il expose en effet ce que vivent les enfants dans l'ombre et la difficulté qu'ils ont également de pouvoir être entendus et protégés quand ils dénoncent justement ce que l'on peut découvrir aujourd'hui dans les médias. Et dans les grosses affaires qui ont défrayé la chronique, et je parle aujourd'hui notamment de l'affaire Epstein. Aujourd'hui, je suis encore celle qui peut dénoncer clairement ce que vivent mes enfants dans ce type de réseau. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir défendre ces enfants aujourd'hui en France. On le voit dans l'affaire Liana, en effet. Dès qu'on dépasse le correct, enfin on va dire ce qui est classiquement autorisé dans l'ambiance publique, hein, c'est-à-dire que quand on parle de choses graves comme le viol d'enfants ou l'inceste, c'est tout de suite des sujets qui sont écartés, dont on ne parle pas et qui malheureusement sont un fléau aujourd'hui. L'affaire Liana le révèle. Donc quand on porte plainte, c'est honteux d'en parler, c'est honteux de traiter l'affaire, et même les gendarmes ont essayé de ne pas traiter ces plaintes. Et on en arrive à des dramas qui sont monumentaux, puisque c'est un fléau aujourd'hui. Quand on regarde les statistiques et quand on voit que tu as 160 000 enfants qui sont violés par an, quand on voit qu'il y a très très peu de condamnations, et quand elles le sont, malheureusement, les rares personnes qui ont réussi à aller jusqu'à la plainte, on a que 99%, on a 99% de personnes qui sont libres, c'est-à-dire que les plaintes n'aboutissent pas. Et sur le 1% qui reste, on n'a que du sursis. Et quand ces personnes sont condamnées, les rares personnes, je crois qu'il y a 0,4% de peine de prison, tous ces violeurs d'enfants, ils finissent dans des centres qui sont plutôt des centres de vacances, où il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, où ils sont libres, ils peuvent sortir. Hein. On en a un, par exemple, en Corse. C'est un véritable centre de vacances où ils ont carrément une plage privée. Ils sortent comme ils veulent.
Ils ont les clés de leur cellule, déjà.
Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est un centre de vacances. Ça ne ressemble en rien à de la prison, puisque moi, j'ai des collègues femmes, des amis qui sont devenus également des lanceuses d'alerte. Hein. Je pense à Inda, par exemple. Hein. Je pense à Séverine Rava, etc. À d'autres mamans qui se battent pour leurs enfants, qui vivent la même chose que les miens et qui, elles, ont fini sous les barreaux. Je veux dire, c'était autre chose que les vacances en Corse.
Bien sûr.
Elles ont été privées de tout. Il y en a qui ont fait de la grève de la faim. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elles empêchent l'oubli de leurs enfants, l'oubli de la parole des dénonciations de leurs enfants. On marche sur la tête. En fait, la justice est inversée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous emmène, c'est la fameuse fenêtre d'Overton. On nous fait accepter progressivement la sexualité à l'école avec les cours Evars. Ça devient normal, alors qu'on se rend même pas compte, si on prend du recul, que c'est déjà du viol psychologique de nos enfants, parce que parler de pénétration, de sodomie, etc., à des enfants en bas âge, parce que moins de 10 ans, c'est du bas âge, hein, on leur impose même des cours de masturbation à l'âge de 4 ans. Un enfant, c'est extrêmement intrusif pour lui. On ne peut pas parler de sexualité parce qu'il n'y a pas de sexualité chez un enfant.
Bien sûr.
On peut lui apprendre à identifier les agressions.
Il faut rajouter aussi une chose. On va parler de votre cas tout de suite, mais il faut rajouter aussi une chose, et j'ai eu ce débat à Bistrot Liberté chez nos amis de TVL, parce qu'on me dit, la justice, elle dysfonctionne à cause des moyens, des je sais pas quoi, du trop de travail, il n'y a pas assez de magistrats, je sais pas quoi. Non, ça, c'est bidon. Ça, c'est bidon. Quand on a un juge qui a téléchargé 1 million de photos, de vidéos pédopornographiques et qui a eu à la suite de cela 1 000 euros d'amende, source BFM. Quand on a un vice-procureur de Bobigny qui était en charge de la lutte contre la drogue, qui fait du chemsex et qui a été transféré dans un autre parquet en tant que juge des enfants, ou qu'on a un juge, je sais plus si c'est Besançon, Dijon, je sais plus exactement, et où on a un mec qui a... ouais, c'est ça. Un mec qui faisait violer sa fille par ses autres amis juges. Il faut dire les choses, ça s'appelle un fonctionnement judiciaire. Ça veut dire que la justice, elle fonctionne de cette manière car c'est idéologique et ce n'est pas une question de moyens. Même si demain la justice avait de 500 milliards d'euros de moyens et qu'il y avait 5 millions de juges, eh bien, il y aurait aussi peu de condamnations. Et ça, il faut commencer vraiment à parler et arrêter toujours de faire « non mais les moyens, les je sais pas quoi ». Non, ça c'est bidon. Vas-y, Chardalia.
Je vais te donner un exemple très précis qui prouve qu'en effet, ce n'est pas une question de moyens. Puisqu'une personne qui va voler un sandwich dans un supermarché va se retrouver tout de suite à faire de la prison ferme. Une personne, alors tu vois la surveillance, un enfant qui disparaît, on ne le retrouve pas. Sauf s'il y a des associations qui se battent et qui vont tout faire pour le libérer en le trouvant.
Mais on va aller même plus loin, Chardalia. On va aller même plus loin. La justice a eu énormément de moyens et a été excessivement rapide lorsqu'il fallait saquer les agriculteurs de l'Ariège, par exemple.
Par exemple, ou quand tu as le couple qui a essayé de protéger leur enfant, qu'ils allaient leur retirer alors qu'il avait quelques jours de naissance et qui s'est enfui en fait par la Belgique, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui.
Les moyens ont été colossaux, ils les ont retrouvés dans la minute. Tu vois bien qu'il y a deux poids, deux mesures, il faut arrêter d'être dupe. Ce système, aujourd'hui, profite à ceux qui sont au pouvoir et qui ont mis en place une organisation pour se protéger eux-mêmes. Nous sommes considérés comme des, comme ils le disent très bien, hein, des descendants, des inutiles, ou les quelques-uns qui sont utiles, ben, on va leur apporter justement des ressources, des moyens, on va travailler pour eux. Voilà comment ils nous considèrent. Le premier qui bouge, eh ben, on l'aligne, ou on le suicide, ou au contraire, eh ben, on va le mettre en prison. Moi, je te rappelle quand même que j'ai été condamnée, juste pour avoir cité le nom des juges, à de la prison ferme, on marche sur la tête, quoi.
C'est
Et c'est
dingue.
des, j'ai, voilà, donc ils ont détourné la loi en faisant un micmac pour essayer de trouver une condamnation qui n'existe même pas.
Alors,
Mais toujours est-il que si j'avais été sur le sol français, je serais en prison aujourd'hui, tu comprends?
tu es, je te reçois en visio, tu es à l'étranger, on va pas dire où, voilà, pour ta protection. Alors, raconte-nous vraiment cette histoire, ton histoire.
Eh bien, écoute, voilà mon histoire. Donc, j'ai dénoncé, j'ai soutenu la parole de mes enfants qui, quand ils rentraient de vacances de chez leur géniteur, avaient vécu des choses dramatiques. J'avais déjà des soupçons parce que j'avais déjà porté plainte sur leur état physique, notamment, et psychologique. Ils étaient suivis par un psy qui avait en effet confirmé des violences. Mais mon avocat m'avait vraiment fortement conseillé de ne pas évoquer ce sujet pour obtenir la garde des enfants, car comme par hasard, dès qu'on parle de violence, le parent qui ose dénoncer que l'autre parent est violent, il perd automatiquement la garde. Il est incriminé, il est traité comme un voilà d'hystérique, etc. Donc j'ai suivi ses conseils, mais donc c'est comme ça que j'ai obtenu la garde de mes enfants et je me suis installée donc en Moselle puisque nous vivions en Savoie, près de Chambéry. Et là, quand ils sont rentrés de vacances où ils n'avaient la moitié des vacances chez leur géniteur, ça a été dramatique. Ils étaient dans un état catastrophique. Et là, ils ont commencé à parler, à dénoncer des choses dramatiques. Donc des viols en réunion, des tortures, enfin bon, des choses innommables. Et c'est vrai que sur le coup, moi, j'ai retenu que les viols parce que j'avais pas conscience que les cages qui me dessinaient avec des enfants dedans et des têtes en moins et des têtes pendues au plafond, c'était possible. Je ne connaissais rien du satanisme et de leur rituel. Donc pour moi, c'était encore trop dur à accepter et à comprendre. Donc je n'ai porté plainte avec eux que pour la partie incestueuse. Et là, en fait, tout s'est enchaîné contre moi et contre mes enfants. Même si, dans un premier temps, le géniteur a été écarté des visites médiatisées parce que j'ai refusé de remettre mes enfants pendant les vacances, j'ai été condamnée plus tard pour non-représentation d'enfants, hein, malgré la plainte pénale et les preuves que j'ai apportées. Et contre toute attente, on m'a interdit la sortie du territoire ainsi qu'à mes enfants pendant l'instruction de cette fameuse plainte pénale. Et je n'ai jamais eu de retour de cette plainte. Et quelques mois plus tard, on va dire 9 mois plus tard, alors que les enfants continuent à dénoncer des choses, à faire des dessins, à expliciter des éléments, et que j'apportais des preuves
Ah, attends, il y a des petits
pour
problèmes
alimenter la
techniques
plainte
là.
pénale.
Attention, attention, il y a un petit problème. Regardez votre Wi-Fi, peut-être. Là, ça va? Attends. Allô, Dalila?
Ça va mieux. Oui, je pense que ça va, non? Oui,
Ça
tu
va?
m'entends?
Ouais, ah, c'est bon, voilà.
Est-ce que... Oui, ça va. C'est bon. Alors, je disais, c'est bon cette fois?
Oui, allez, allez-y, ouais.
Donc, voilà, j'ai apporté de plus en plus d'éléments pour étayer ma plainte pénale. Et donc, mon avocat était persuadé que, comme il y avait des dénonciations aussi de films, de fichiers pédoporno d'après les enfants, on pensait que, voilà, il allait être arrêté très rapidement. C'est ce que m'ont fait croire les gendarmes. Et contre toute attente, fin d'année, donc les enfants ont porté plainte en avril 2019 et en novembre 2019, un juge des affaires familiales s'auto-saisit, ce qui est illégal, hein. Un juge ne peut pas se saisir lui-même, il doit attendre qu'un des deux parties. S'ils n'avaient pas les moyens, je peux dire qu'il sera à l'affût, en effet, que des demandes et non pas de la liberté de s'auto-saisir pour rajouter de la paperasse et des dossiers. Donc c'est encore là la preuve qu'on nous ment. Et il se s'auto-saisit pour me retirer la garde des enfants et la remettre en garde totale, ce qui ne s'est jamais vu, hein. On ne remet jamais d'un côté les enfants, on regarde total chez un parent à l'autre, aussi brutalement. Et donc, pour ça, on m'a convoqué à la gendarmerie. Pendant ce temps, ils ont kidnappé les enfants à l'école, alors qu'il n'y avait pas encore de jugement émis, ce qui était également illégal. Enfin bon, voilà, j'ai pléthore de preuves d'illégalité de mon dossier. Et on comprend, en fait, voilà, mon ex-compagnon fait partie des loges,
C'est ça,
des
parce que
hautes
c'est ça
loges.
la particularité aussi, c'est que il est, voilà, il fait partie des loges, il a
Voilà.
le bras long, si je puis dire, quoi.
Tu as tout compris. En effet, il fait partie des loges parce que dans les dossiers que j'ai commencé à analyser, j'ai vu qu'il y avait toujours ces fameux trois points qui sont typiques ou ces triangles de la reconnaissance entre francs-maçons. Et donc, voilà, quand on commençait à apparaître ces fameux trois points et ces triangles, c'était justement ce fameux jugement du 15 novembre qui me retirait de manière horrible et illégale la garde des enfants. Depuis, bien sûr, je n'ai pas pu les voir que moins d'une trentaine d'heures en visite médiatisée. C'est le comble, hein, parce que moi, on n'a rien à me reprocher, si ce n'est de soutenir la parole de mes enfants. Et donc, forcément, un parent qui soutient un enfant qui dénonce des viols et des violences, c'est un parent hystérique. C'est le fameux syndrome d'aliénation parentale qui est pourtant interdit en France, hein. On ne peut pas l'utiliser en justice. Et moi encore, bien sûr, c'est utilisé. En fait, on a une accumulation de dysfonctionnements et d'illégalités dans mon dossier qui prouve bien que si malgré toutes mes dénonciations, malgré toutes mes plaintes, malgré toutes les actions de mes avocats et malgré justement mon image assez publique maintenant grâce au film des survivants, grâce à Carl Zero également, qui m'a fait passer dans son émission et dans son magazine, grâce à toi également, Mike, et Nexus. Malgré cela, je n'arrive pas à faire entendre la parole de mes enfants. Et mon dossier, qui est pourtant très, très bien détaillé, parce que j'ai bien sûr enregistré énormément de preuves, grâce à mon histoire, mon métier personnel qui me permet d'être une enquêtrice, étant donné que je suis auditrice, j'ai pu cumuler énormément de preuves. J'ai un dossier, je pense que je dois avoir le plus gros dossier qu'on puisse avoir sur ce type d'affaires. Et malgré ça, je suis pourchassée comme si j'étais une criminelle. Alors que je ne fais que dénoncer mon histoire, je n'ai jamais été ni violente,
Bah
je n'ai
oui,
jamais été hors la loi.
Dalila était dans l'obligation de s'exiler. Tiens, je rappelle aussi une chose parce que souvent il y a un préjugé ou une idée reçue qui disent voilà ces mères ou ces pères de famille qui subissent ça. Souvent ce sont des familles dysfonctionnelles ou socialement. Même si c'est pas méprisant, hein, ou socialement ont des problèmes, on peut dire que ouais, toi, cher Dalila, tu es ingénieur. Bah, ça, c'est ton métier. Bah,
Oui, tout à
voilà.
fait.
Et normalement, contrairement à l'idée reçue, dans moi, tu n'aurais jamais dû connaître ce type d'histoire. Ça signifie que, en réalité, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde.
Et le problème, c'est que ça arrive à beaucoup de monde et qu'on nous met tellement la pression qu'on nous empêche de parler. Il y a énormément de personnes qui sont des gens normaux, qui aiment leurs enfants. Et même d'ailleurs, je vais te le prouver, parce que dans les attaques que l'on subit, nous, les parents protecteurs, c'est qu'on nous reproche d'être des parents trop fusionnels. Ça veut dire quoi, parents trop fusionnels? Ça veut dire un parent aimant et protecteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on nous reproche d'être des parents aimants. On marche sur la tête quand on n'a rien d'autre à te reprocher, parce que
Sûr.
tu te drogues, tu bois pas, tu voles pas, enfin, voilà, tu as une vie sociale. J'avais quand même une grande maison, mes enfants étaient épanouis, je gagnais très bien ma vie. Mes enfants étaient brillants, ils étaient en avance à l'école. Et pourtant, je leur mettais pas la pression. Ils avaient chacun leur chambre avec leur salle de bain, ils avaient leur salle de jeu. J'avais acheté une grande maison, ils avaient leur piscine, ils avaient leurs amis qui venaient, ils avaient un toboggan, un trampoline, enfin, ils avaient une aire sécurisée parce que j'avais une allée bituminée qui était pour eux moyen de faire du roller, de faire du vélo en toute sécurité. Je veux dire, tous les services sociaux qui sont venus m'ont même dit, mais madame, je ne comprends même pas pourquoi on vous harcèle. Si tous les parents étaient comme vous, on serait tranquille. Et mes enfants étaient autonomes, ils faisaient du foot, ils faisaient du judo, ils faisaient de l'équitation, ils faisaient de la musique. On allait dans les musées, on partait en voyage régulièrement. Mais voilà, ils dormaient, ils étaient équilibrés, ils mangeaient équilibrés, il n'y avait pas de problème d'obésité, ils n'étaient jamais sur les écrans parce qu'on faisait beaucoup de travaux manuels. Tu vois, j'avais orienté leur développement sur l'artistique, etc. Donc c'était impensable pour moi, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne me suis pas méfiée, qu'on puisse m'enlever les enfants. C'était impensable. Moi j'adore les enfants, je m'en occupe depuis que je suis gamine. C'est mon premier job, j'ai été aide-mono dans un centre aéré à 14 ans. Et ensuite j'ai fait du babysitting, j'ai même été fille au père en parallèle pour continuer à payer mes études. Et là tu te dis, en fait j'ai pris une claque monumentale de comprendre qu'en fait en France...
Ben
Ouais, voilà. Et j'avais les services
on
sociaux,
le
j'avais
voit,
mes...
mais on le voit par exemple dans le film Les Survivantes de Pierre Barnérias, où il y a un appel Alors je sais plus de qui déjà, je sais pas si c'était le tien ou d'une mère de famille. Ah ben, je crois que c'était le tien d'ailleurs. Auprès de la police. Et en
Oui, c'est
gros,
moi.
ils prennent
Oui.
ça par-dessus la jambe,
Ah
quasiment.
oui, non, oui. Oui, c'est un appel anonyme d'une maman, on essaie qui dénonce. Mais moi, c'était pareil. Tu sais comment j'ai fait, moi, pour pouvoir porter plainte?
Non?
Et ça, c'est un conseil que je vais donner aux parents.
Oui, bah,
Quand
vas-y.
tu y vas, on te reçoit pas. C'est très difficile d'être entendu quand tu viens déposer une plainte pour viol sur tes enfants. Donc, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dû louvoyer. J'ai dû passer par la plateforme Internet pour déclarer la plainte pénale, enfin, pour déclarer ma plainte. Et ensuite, j'ai choisi la gendarmerie qui pourrait me recevoir pour m'entendre et pour cette plainte, parce qu'en fait, c'est une pré-plainte en ligne. Ces plaintes-là, elles incriminent les gendarmeries parce que si elles ne les traitent pas, elles remontent au ministère de la Justice et donc ils sont fichés, ils sont mal vus. Donc là, ils te prennent en considération. Ils sont obligés de te traiter. Tu comprends? Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai dû louvoyer le système. Et en faisant cette pré-plainte en ligne, j'étais enfin entendue et là, j'ai pu aller plus loin. Mais par contre, les éléments que j'ai apportés dans ma plainte étaient supprimés et retirés du dossier. Et j'ai dû aussi faire des mails pour prouver, en mettant mon avocat en copie, en écrivant à la gendarmerie et en mettant en copie aussi les ministères publics, hein, comme les tribunaux, même les services sociaux, etc., et en mettant en pièce jointe les éléments de preuve que j'avais. Sinon, ça restait. Ça n'apparaît pas dans mon dossier. Tu comprends? Parce que les juges, malheureusement, les retirent des dossiers. Donc, tous les éléments que tu apportes, qui sont des preuves notoires, disparaissent de ton dossier et ça fait un dossier qui est très vide et qui ne va que alimenter la partie adverse, donc le pédocriminel. C'est très vicieux.
C'est fou, c'est-à-dire que on a dans ce pays, enfin, faut dire les choses, hein, nos enfants sont en danger.
Ils sont en extrême danger et tout ça, ce que je te raconte là, on a l'impression que ça date d'hier, il y a 3 ans, il y a 5 ans, c'est faux. Regarde l'affaire qu'a dénoncée Martine Bouillon dans les années
Martine
98.
Bouillon, qui était, je crois, procureur, c'est ça?
Exactement, elle était procureure, elle a été aussi magistrat, elle a été juge aussi, juge d'instruction notamment, donc elle maîtrisait bien les affaires pédocriminelles parce que c'était très rare les juges de vouloir s'intéresser à la protection de l'enfance. Martine est une vraie héroïne, c'est une amie de cœur que j'aime beaucoup, beaucoup, voilà, qui est un être exceptionnel. Et elle s'est retrouvée justement sur une affaire où elle a découvert des charniers d'enfants. Donc comme les juges étaient très rares et les procureurs très rares à vouloir vraiment s'intéresser à ce cas-là, elle avait un pool de gendarmes qui l'informait justement de tout ça. Et elle a voulu en parler pour pouvoir arrêter tout ça. Et donc sur le plateau d'Élise Lucet en 1998, c'est un reportage de Pascal Justice. Elle a justement rappelé qu'il y avait un charnier d'enfants qui avait été retrouvé dans une forêt aux alentours de Paris, quoi. Et elle expliquait que justement il y avait une instruction en cours. Sauf que Martine, le lendemain, elle s'est fait détrôner. Elle a été virée de son poste. Elle a été virée de Bobigny. Elle a été envoyée dans un placard, on va dire ça, une activité de placard, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus rien, on la harcelait, elle s'est fait harceler par toutes ses équipes, tous ses collègues, et elle s'est retrouvée ensuite en banlieue, on n'entendait plus parler d'elle, ensuite elle a vécu des tentatives de meurtre, elle a fini, on ne le sait pas ça, mais elle a fini plusieurs fois à l'hôpital, elle a eu des chocs frontaux avec des camions, etc. On a essayé de la nettoyer, et on a appris plus tard que le procureur c'était, je crois, le président Joubrel. Quel était son poste? C'était un magistrat, en tout cas. Joubrel, c'est lui qui l'avait viré. Et on a découvert quelques mois plus tard, tiens-toi bien, que ce fameux Joubrel avait plus de 1 000 fichiers pédopornographiques sur son ordinateur. Tu vois, ça nous rapproche de l'affaire que tu viens de me décrire, d'un autre magistrat. Donc ça, c'était déjà en 98. Tu vois bien que c'est un problème de fond qui s'aggrave en France. Et si on va pas plus loin, je veux dire, c'est dramatique pour nos enfants parce que un violeur qui n'est pas traité a 40% de chances d'être lui-même un violeur. Un violeur va pas violer juste un enfant dans sa vie, on va violer plusieurs. Si aujourd'hui, en plus, on conditionne nos enfants à ce que ce soit normal de parler de sexualité, ils vont plus pouvoir se plaindre si à 4 ans, on leur explique déjà la sexualité. Donc, tout le monde. Je ne sais pas si tu vois, c'est un changement de paradigme. On est carrément en train de basculer dans un système où l'enfant devient un objet. Non,
mais c'est satanique. C'est satanique, il faut dire les choses.
Voilà. Tu as tout compris, c'est satanique.
Aujourd'hui, alors tiens, rouge, une auditrice, alors je commence à recevoir les questions, une auditrice nous a appelé. Les enfants, comme dans les avortements, sont sacrifiés à Baal. Alors je ne sais pas ce que c'est, et le rite Zuri, employé pour la petite Lola, a été dénoncé par le magistrat Georges Fenech. Devant la basilique de Saint-Denis, un homme sacrifié des pigeons a été interpellé récemment. Alors bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, bref, pour la première partie, ça, qu'est-ce que c'est ça, le rite Zuri et les sacrifices? C'est vrai que... Alors on a entendu parler d'Epstein, le sacrifice de Baal, mais ça, je ne sais pas ce que c'est, les rites Zuri.
Alors, les rites Zuri, alors il en a parlé également, comment il s'appelle, Carl Zero, en parlant de l'affaire Lola.
Oui.
Voilà. En fait, les enfants Zuri, il y a une légende, alors elle est plus ou moins vraie, j'en sais rien, hein, j'ai pas plus de compétences que ça, mais il y aurait, je pense que les enfants Zuri ont été considérés comme des êtres très lumineux et qui sont un danger pour les sataniques, parce que, d'après la prophétie, ce sont eux qui vont s'opposer à Baal. Et donc Baal, c'est qui? C'est leur dieu, un démon, hein, c'est une représentation du diable. Et donc, depuis toujours, il y a des rituels de ces fameux enfants qui ont une ligne dans la main, qui traversent la main de part et d'autre, qui ont des grains de beauté dans la main, qui ont une tache dans l'œil, comme la petite...
Lola.
Tu sais, la petite qui a été... Non, oui, entre autres, mais la petite qui a été kidnappée au Portugal, les parents étaient anglais.
Maddy,
merci. Ben elle aussi, elle avait, tu vois bien, elle avait des taches dans l'œil. Donc ça, c'est des représentations d'enfants Zuri. Donc ils sont hyper puissants énergétiquement. Il semblerait qu'ils sont très connectés au divin. Et donc, ils viennent, c'est un peu l'armée divine qui vient contrer l'armée du diable. Et donc, on les prend pour les tuer et on les utilise en sacrifice pour encore plus défier le créateur. Tu vois? Et donc, c'est ça les fameux rituels qu'ils réalisent. Et il y a une grosse chasse aux enfants Zuri, notamment dans les pays du Maghreb et notamment au Maroc, malheureusement. Et je sais que voilà, dans les pays voisins, il y a beaucoup d'enfants qui sont kidnappés. On leur demande de tendre la main pour prendre un bonbon. Et quand on repère ce fameux trait dans la main, qui traverse la main de part et d'autre, on kidnappe ces enfants et on les revend très très cher. Ils sont utilisés en effet avec leur sang pour retrouver soi-disant des trésors. Mais je pense que c'est réellement une chasse à ces enfants qui sont la génération aujourd'hui qui s'oppose à ce système satanique parce qu'ils en ont conscience. Voilà.
Alors, deuxième. Vas-y, continue.
Oui. Oui, et Baal, il est connu, hein, et Moloch, je ne sais pas si tu as vu, il y a quand même des représentations où il y a une grande statue métallique qui a un foyer de braise dans le ventre et on ouvre cette trappe et on balance les enfants vivants, les bébés vivants dans cette trappe pour les sacrifier à Moloch depuis la nuit des temps. Tu vois ? Ça a toujours existé, en fait.
Mais et justement, Baal, on a vu que faisait partie de l'affaire Epstein, ce qui est hallucinant. Parce que l'affaire Epstein, voilà une affaire sur laquelle le Parisien enfin a fait un hors-série en disant, en gros, que tout ce que nous disions, nous les fameux complotistes, entre guillemets bien sûr, eh bien, était faux. Eh bien, aujourd'hui... Ils en ont fait un hors-série, allez-y, hein. Enfin, bon, n'y allez pas parce que vous n'apprendrez rien de nouveau, mais peut-être par curiosité ou sinon si vous voulez financer M. Bernard Arnault. Eh bien, le hors-série, moi je l'ai acheté, le hors-série du Parisien dit tout, qui fait 100 pages, dit tout ce que l'on a annoncé il y a des mois et même des années de cela sur l'affaire Epstein. Voilà. Et justement, de ces rituels, de Baal, etc., etc. Alors tiens, commentaire d'auditeur. Bonjour, malheureusement, rien n'a changé depuis les enfants perdus de l'hôpital général en 1750, décrit par Marion Sigaud dans La Marche Rouge, si ce n'est les émeutes populaires pour défendre des enfants. D'ailleurs, tiens, c'est très intéressant ce que dit ce monsieur, parce que on ne voit pas hormis des lanceurs d'alerte, certains lanceurs d'alerte comme dont tu es, mais on voit très peu de Français se mobiliser pour ces enfants. Moi, je vais prendre le dernier cas en date, c'est les périscolaires de la mairie de Paris. Eh bien, on en a Madame Dati a fait campagne dessus contre ça, justement, pour dénoncer cela entre les deux tours. D'ailleurs, c'était sa dernière carte. Et pour le coup, les Parisiens ont élu le maire ou enfin, la personne qui était en place lorsque les périscolaires ont été. Voilà, lorsqu'il y a eu ce scandale. Je veux dire, ça n'a pas dérangé les gens. Non, chère Dalila, je veux dire, les gens, moi je les vois pas chaque matin de, je sais pas moi, de Nation à la Bastille ou de je ne sais où à Paris ou même en province chercher à se mobiliser pour les enfants.
Si, alors si, détrompe-toi, il y a bel et bien des groupes de personnes qui se mobilisent.
Oui, c'est des groupes, mais il n'y a pas 200, 300, 400 000 personnes. Alors qu'on devrait être des millions à chaque fois.
Oui, mais pour organiser ce type de manifestation, il faudrait qu'il y ait une communication, tu comprends ? Et comme les médias ne nous appartiennent pas, les médias publics ne nous appartiennent pas et qu'ils sont justement du mauvais côté, ils ne vont pas nous soutenir, ils ne vont pas relayer. Et tu vois bien que quand il y a une manif, ils vont te dire qu'il y a trois pelés de tendus, alors que ce n'est pas vrai, alors qu'il y a des centaines de...
Oui, mais comment expliquer, par exemple, qu'il y a eu voilà, ce scandale des périscolaires et pourtant le maire a été élu, alors qu'il en était.
Ouais. Bah, c'est la preuve que tout est truqué. Tu sais bien qu'il y a un une grosse polémique sur les élections, sur les outils qui sont utilisés, les étuis Skilt, comme on les appelle. Mmh. C'est un logiciel qui dit que bah voilà, tu peux à distance sélectionner la personne que tu veux. Et puis, moi, je te le confirmerai parce que je t'ai déjà expliqué que j'avais dans mon entourage un ami qui travaille, enfin, qui est franc-maçon, et qui me dit qu'il est contre justement les loges noires, hein, comme ils les appellent, celles qui sont dédiées au satanisme, et me disait qu'ils se réunissent annuellement, enfin, avant chaque élection, pour décider de qui va être élu, etc. Donc, comment tu peux savoir qui va être élu?
Bien sûr.
Et qui va être en face à la dernière ligne droite? Parce que justement, ils ont des logiciels et des outils qui nous dépassent. Il faut savoir que tout ce qu'on nous met à disposition aujourd'hui, c'est déjà obsolète pour eux. Ils sont en avance sur nous, sur tout ce qui est technologie, connaissances en tout genre. Donc, il ne faut pas croire que les outils qu'on a en place, ce sont les seuls outils qui sont limités à ce que l'on connaît, nous.
Alors, j'ai encore une question, et après, on va parler de quelque chose qui est vraiment un tabou, pour le coup, dans ce pays. Et j'en ai fait les frais, enfin, j'en ai fait les frais, non, mais j'en ai débattu cette fameuse émission à Bistro Liberté. Alors, d'abord, pouvez-vous parler du livre Clément, paru en avril? L'auteur en est Romain Lemire. Ce livre raconte des périodes douloureuses de sa petite enfance durant lesquelles lui et ses frères ont été abusés par leur père. Je ne connais pas du tout ce livre, je ne sais pas si tu le connais.
Non plus, je ne le connais pas, désolé.
Bon, bah alors voilà, il y a un livre de Romain Lemire qui s'appelle Clément. Bon, voilà, si c'est... Bon, si, oui, la personne, si la personne peut peut-être contacter, parce que je ne voilà, je connais pas du tout ce livre. Alors, il y a une chose, pour moi, il y a un tabou, il y a un grand tabou. Et voilà, je l'ai vu à Bistro Liberté, j'étais face à un commissaire divisionnaire. Et justement, la thématique était liée à l'enfance, etc. C'était en pleine affaire Liana. Et... j'ai parlé de réseau. Alors, on sait qu'il y a eu le réseau, par exemple, de cet élu de LFI en Vendée. Et c'est confirmé, c'est bien un réseau. Et j'ai dit, il y aurait forcément des réseaux. Parce que, par exemple, ce monsieur Barrella, visiblement, qui était fiché jusqu'en Amérique, voilà, il n'agissait pas forcément seul. Carl Zéro, justement, parle du réseau de Dutroux, de Nordal-Lelandais, etc., etc. Et ce commissaire divisionnaire a été, évidemment, catégorique, je ne sais pas pourquoi, il a mal pris la chose. Eh bien, il m'a dit, non, mais ce n'est pas des réseaux, c'est des gens qui se connaissent entre voisins, entre ceci, entre cela. Enfin, voilà, il n'y a derrière aucune loge, aucun rien du tout, en fait. Voilà, c'est juste essentiellement de la pédocriminalité, de voisinage, hein, si je puis dire, quoi. Voilà.
C'est complètement faux.
Mais pourquoi ce tabou? Pourquoi ce tabou?
Mais je veux dire, je vais t'expliquer, c'est très clair, ils se tiennent tous par la barbichette. Rappelle-toi, c'est quoi l'intérêt du réseau Epstein? c'est créer un système pour tenir et continuer à gouverner ce monde. Donc, tu mets en place des personnes clés qui vont pouvoir dominer les gens et les tenir d'une manière ou d'une autre, ou par l'argent, ou par toujours par leurs vices, en fait, hein. C'est les fameux sept péchés capitaux. Donc, les personnes qui sont avides d'argent, bah, tu vas essayer de les soudoyer et puis tu vas garder la preuve. D'autres qui sont dans la luxure totale, qui trompent leur femme, etc., bah, tu vas pouvoir prendre des fichiers, puisqu'on est tous surveillés. Hein, donc, ils ont des vidéos sur eux, etc., ils les filment. Et puis ensuite, tu as aussi ceux que tu n'arrives pas à tenir, bah, tu mets une situation où tu les invites à une soirée, tu les drogues, et tu leur mets un enfant que tu as formé à la prostitution. Et puis le gamin, bah, voilà, il se retrouve à poil avec le gars, et puis tu as pris une photo, terminé, le gars, il est mort. Tu le tiens, et c'est comme ça que tu tiens le monde. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils veulent pas perdre leur place. Tu te doutes bien que tous ceux qui tiennent les finances, qui tiennent les banques, c'est ceux qui dominent le monde. Donc, c'est quoi cette famille? Une douzaine de familles. Donc, elles ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en place un système pour tenir tout le monde. Et c'est à ça que ça sert. Et le réseau, il est là aussi pour protéger ces êtres. Donc, quand tu as un magistrat qui est corrompu et véreux, ou un flic, ou comme mon ex, un gars bien placé parce qu'il donne énormément d'infos sur les surveillances informatiques de tout le monde, parce que, voilà, il bosse là-dedans, ben, ce gars-là, faut le protéger si jamais il tombe. Tu comprends? Donc, on met tout un système en place et il y a des avocats dédiés, des juges dédiés, des flics dédiés, et on le voit dans mon affaire très clairement, tu as des flics qui viennent, qui arrivent juste pour traiter une plainte et qui repartent, qui ne font même pas partie de la brigade. Mes juges, tu vois qu'ils se déplacent de ville en ville et je retrouve d'autres parents qui me disent qu'ils ont eu les mêmes juges, alors qu'à l'origine, le juge était dans mon secteur. Qu'est-ce qu'il fait dans le sud-ouest? Tu vois? C'est là que tu comprends que pour se protéger eux-mêmes, ils mettent en place un système qui va les protéger. Tu vois? Donc ça va être une infiltration à tous les niveaux.
Mais oui, mais évidemment. Enfin, je comprends pas cette. Soit c'est une naïveté de la part de certains, soit c'est non. Peut-être c'est une forme de complicité aussi, c'est possible. Mais
Voilà, toutes les ressources.
déjà par exemple, parlons des juges. Le syndicat de la magistrature, c'est un réseau. Je dis pas que c'est un réseau pédocriminel, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Mais j'ai dit c'est un réseau en lui-même. C'est-à-dire que quand on est du syndicat de la magistrature, on se coopte, on est avec les siens parce qu'on pense globalement pareil. On s'est inscrit, on paye des cotisations et tout. Bah, c'est un réseau. Comme je sais pas moi, quand vous avez fini Sciences Po et que vous payez pour être membre de l'association des anciens de Sciences Po où les mecs ils se donnent des contacts pour des travaux pour du travail, bah c'est un réseau. Bah, je comprends pas. En fait, j'ai l'impression que ce terme et on a l'impression qu'on touche quelque chose qui fait
C'est pas
bondir les uns et les autres quoi. Enfin, c'est fou.
parce
Le
que
mec, ils ont
le
fait
système de
l'ENA, et
l'eau.
d'ailleurs, tiens, Paul-Antoine Martin le dit très bien, il parle très bien des hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui se cooptent essentiellement, il le dit dans ses bouquins, et ce sont des réseaux. Mais les réseaux, ce n'est pas obligatoire que ce soit que pédocriminel, il n'y a pas que ça dans la vie, mais pourquoi est-ce que des réseaux professionnels, amicaux, existeraient et pédocriminels, non, ça n'existerait pas en fait. C'est fou.
Pas forcément. Il y a des déviances dans tout.
Bah oui.
Donc, si tu as en effet quelqu'un de protégé et qu'il y a des déviances sexuelles, ou que en effet, moi je pense qu'ils sont tous dépendants de cette secte satanique qui a pris le pouvoir du monde, puisqu'on le voit, ils sont infiltrés dans le monde entier. Moi, les survivantes avec qui j'ai parlé, notamment avec Anneke, qui est
Anne-Claude
très proche, je
Lucas.
suis toujours très proche, Anneke Luca, qui est une des premières lanceuses d'alerte hein, sur le sujet, elle m'a tout de suite dit, Dalila, cette affaire, elle est mondiale. C'est une secte mondiale. Et je lui dis, maintenant, c'est compliqué, c'est incommensurable. Elle me dit, tous les survivants te le diront, tous ceux qui ont beaucoup d'expérience. Et en effet, j'ai compris que c'est pas possible parce que c'est comme un système de management en entreprise. Quand tu as plusieurs entreprises dans le monde entier, tu vas mettre en place un système qui va te permettre de remonter et récolter toutes tes infos à la tête, au siège. Donc là, c'est la même chose. Donc dans le monde entier, ils ont mis en place des systèmes qui leur permettent de continuer à surveiller et à contrôler leurs différentes antennes dans le monde entier. C'est comme ça que ça se passe.
Bah, tu as
Tu
bien fait de
vois?
parler de Anke Luca. Là aussi, c'est dingue. Anke Luca, elle est dans les conférences, dans les grandes conférences américaines. Elle fait 4 et
Gardien
5
de la
millions
Clinton.
de vues. Voilà, à chacune de ses vidéos, dans ses grandes conférences américaines, elle fait 4 et 5 millions de vues, hein, faut dire les choses. Moi, je l'ai reçue, j'ai fait 10 000 vues. Voilà, enfin, c'est hallucinant. Non, mais vraiment, hein, c'est. Alors qu'en Amérique, moi, j'ai l'impression que par rapport aux Américains, par exemple, on est excessivement en retard parce que les lanceurs d'alerte en Amérique. Je veux dire, ils sont invités dans les grands médias nationaux américains. Et ça ne pose pas de problème, ça ne choque personne. Je vais prendre même l'histoire de la crise sanitaire. Le ministre de la Santé américaine et le Sénat, qui est quand même plus puissant que le Sénat français, eh bien, on parlait des dysfonctionnements de la crise sanitaire, etc. En France, rien. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui met à mal le pouvoir, la République, etc., en France, on met le couvercle. C'est hallucinant. Enfin, c'est un pays, c'est pire. La France, c'est pire que l'Union soviétique sous la Pravda. C'est ça qui est dingue,
T'as
hein.
tout compris. C'est la dictature totale. Là, on peut dire qu'on est en dictature. En fait, c'est très simple à comprendre. Si, en effet, il y a une liberté de parole sur ce type de sujet, c'est qu'à la tête du gouvernement américain, c'est épuré. C'est aussi simple que ça. S'ils permettent à des Anokulukas de parler librement, sans censure, parce qu'il ne faut pas rêver. Toi, tes émissions, elles sont très pertinentes. Hein, je les écoute, c'est une des rares chaînes que j'écoute, parce que tu fais venir les gens, tu leur permets une liberté de parole, et nous, on sait ce qui se passe. Et pour réveiller le peuple, il est primordial qu'on puisse parler. Donc tu es censuré parce que tu es ciblé. Il faut pas oublier que ce réseau, ils ont tout prévu. Ils ont prévu de nous traiter de complotistes et ils ont prévu aussi de nous silencier en nous shadowbannant. Tu
Bien
vois?
sûr.
Regarde le film de Pierre, il était shadowbanné malgré tout et à chaque fois qu'il sortait, il y avait un énorme succès.
Ben,
Toutes ces émissions, elles sont
sûr. Mais regarde, au Grand Rex, il y a eu, je crois, 1 500 personnes.
Ben oui, t'as vu, on a eu des ovations, ça s'est passé super bien. Pourquoi? Parce que tu vois bien que le public, il adhère à ces sujets-là, il est prêt. Mais c'est les médias qui bloquent, c'est le système en place qui nous met des
C'est
cadres,
clair.
tu vois, dans
Mais
les roues.
regarde, moi ce que je trouve dingue, on va prendre l'affaire Epstein, parce que voilà, elle est officielle, etc. Tout vient des États-Unis, au niveau de l'information aujourd'hui, et alors que le Parisien, encore une fois, le Parisien dit, le Parisien, le journal de Bernard Arnault, qui est le journal le plus subventionné de France, il dit que pourquoi est-ce que Bernard Arnault était en France? Parce qu'il y avait un proverbe, rappelez-vous, qui disait heureux comme Dieu en France, on pourrait dire heureux comme Epstein en France. C'est-à-dire il était mieux Epstein en France qu'aux États-Unis. Il a peut-être même fait plus en France qu'aux États-Unis. Le Parisien le dit. Et pourtant,
Oui, et moi.
il y a rien, la justice, rien. Soi-disant, ils ont perdu, ils ont tout perdu. Il y a rien qui sort. C'est fou.
Oui, en fait, moi, je suivais les réseaux sociaux américains au départ, quand j'ai commencé
Ouais.
à découvrir ces horreurs, il y a une dizaine d'années. Et ils disaient toujours, la France, c'est un des derniers pays qu'on nettoiera. Pourquoi? Parce que c'est un des plus corrompus. C'est une des têtes pensantes avec Israël. De ce système pédosatanique mondial, tu vois. Donc, tu as tout compris, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont été épurés, c'est encore en cours.
Alors, attends, on ne t'entend pas, mais
C'est
c'est pas grave.
l'amplifier
C'est pas
le plus
grave,
haut
on va
classé.
passer le bobino et juste après, on te reprend.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Continuez à soutenir Radio Courtoisie, une radio libre. Et c'est parce que vous êtes les patrons qu'on est libre. Donc continuez à les soutenir. Si nous étions dans un format, on va dire, subventionné comme les grands médias ou à la botte de milliardaires, c'est eux qui choisiraient la programmation. Donc comme nous sommes libres, ben, Et comme vous, vous êtes libre aussi, eh bien, continuez à nous soutenir. Je reçois Dalila Sadok, lanceur d'alerte. Elle se bat pour ses enfants qui ont été, il faut dire les choses, kidnappés par les loges. Et voilà, nous avons donc son témoignage qui est si précieux. On continue 2-3 minutes sur l'affaire Epstein. Et après, on va aller sur le cas, comment Dalila, aujourd'hui, qui a dû s'exiler, comment vit-elle? Comment subit-elle sous ses pressions? Quel est son combat? Mais surtout... qu'est-ce qu'elle va faire là à l'avenir? Chère Dalila, voilà, on finit sur aussi l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, c'est un réseau, que le veuille ou non. Voilà, c'est comme ça, c'est un réseau. Et moi, je le dis, je pense que il faut renverser la table. Il ne faut pas juste faire de la petite mesurette. Là, aujourd'hui, on a un tel niveau dans ce pays qu'il faut renverser la table par tout. Les moyens. L'affaire Epstein, par exemple, est bien trop grave et nous ne connaissons pas encore aujourd'hui quels sont les tentacules de cette affaire Epstein, jusqu'où c'est allé. Ce que l'on peut être certain, c'est que nombre des élites ont participé à ça. Peut-être même des élites dont peut-être même on ne saurait pas, peut-être même qu'on s'imaginerait même pas. Chère Dalila.
Moi, je dirais que c'est même... quand tu as compris leur code, tu peux les reconnaître. Quand tu regardes, par exemple, l'émission Les Enfoirés, quand tu regardes les JO, quand tu vois leur code, quand tu vois Macron, son investiture, tu vas voir qu'il y a le fameux triangle. Il y a un œil. Ils se cachent un œil.
Bien sûr.
Etc.
Alors, là, on le sait. Alors, on va pas donner les noms des gens. Mais on sait que, voilà, que non. Ces gens-là, ils travaillent par code. Voilà. C'est vrai. Ça, pour le coup, on a des stars de la chanson, d'Hollywood, etc. Et je soupçonne même un grand chanteur qui a quelques problèmes actuellement d'avoir été chez Monsieur Epstein au vu de ses liens avec Winamax et la fondatrice de Winamax Monde. Donc voilà. Question.
Vas-y. Oui. Je vais te dire, moi, j'ai des témoignages d'autres personnes, de victimes,
oui,
qui me dénoncent des noms haut placés dans les rituels sataniques français.
Je ne suis pas
d'accord.
Sûr.
Des gens dans le monde entier, en France et dans le monde entier. Donc, si vraiment le système voulait investiguer, qui me contacte, ils le savent, ils savent très bien que j'ai des éléments, j'ai beaucoup de preuves. Pourquoi ils m'appellent pas?
Ça, ils veulent pas trop. Alors, bonjour. L'oligarchie et l'État profond sont gangrénés par la pédophilie. Sans nettoyer ces castes qui ont le pouvoir et beaucoup d'influence, comment arrêter tout ça? Voilà, comment on peut l'arrêter?
Comment on peut l'arrêter? C'est déjà le dénoncer. Je pense qu'il faut déjà informer toute la population. Il faudrait aussi qu'on ait une vraie milice ou un système parallèle qui soit neutre et qui soit, je pense qu'en effet, il faut quelque chose comme l'armée, une branche de l'armée, qui soit, je me demande même s'il faudrait pas qu'elle soit croyante, tu vois, pour être sûr qu'elle tombe pas dans les loges, parce que tu peux pas être à la fois croyant et tomber dans une loge, parce que c'est un moment, ils te demandent de choisir, et ces gens qui seraient pieux, forcément, ils auraient pour intérêt, le sacré, et donc forcément les enfants. Et c'est eux qui pourraient nettoyer. Après, investiguer, c'est très facile parce qu'ils nous surveillent avec les systèmes informatiques, les voies données images, donc ça va être des téléphones, etc., les vidéos dans la rue, partout. Ils savent exactement qui est du bon côté, qui est du mauvais. Donc, ce serait très facile s'ils se décidaient à nettoyer justement ces personnes-là parce que tu vois bien que les fichiers Epstein sont sortis. On a tout sur les fichiers Epstein. Ils étaient en France, ils existent, ces fichiers. Les États-Unis les ont. Je sais qu'il y a d'autres pays qui les ont, je le sais de source sûre. Donc en France, on les a aussi forcément. Donc c'est que le pays n'est pas prêt, ou il y a encore des blocages, ou il y a un nettoyage qui se fait aussi au goutte à goutte dans l'ombre, dont on n'entend pas trop parler, si, parce que faut dire que les affaires qui sortent aujourd'hui, où on entend parler justement de Betarame, on entend parler des réseaux dans les crèches à Paris, etc., c'est bien la preuve quelque chose qui bouge. Avant, il n'y avait rien de tout ça. Pourtant, c'était déjà existant. Tu vois, on a eu le Squarneck, ça faisait longtemps qu'il sévissait et qu'il ne se passait rien. Donc aujourd'hui, on parle, et en plus dans les médias. Donc il faut laisser le temps au temps. Il faut rester intègre déjà chacun dans son coin pour être capable justement d'assumer et d'accepter la situation dramatique dans laquelle on se trouve, pour pas s'effondrer et pour avoir la force de l'affronter quand ce sera su et vu dans les médias, comme le fait aujourd'hui le Parisien. Je pense que les étapes suivantes de l'affaire Epstein, qui a été étouffée, on le sait, en 2019, 2020, oui, quand est arrivée l'enquête à Paris, hein, qui avait été diligentée. Et on a eu 5 décès des gendarmes qui, justement, s'occupaient de cette plainte et mystérieusement suicidés par un mec qui était sourd et aveugle pour arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Hein.
Bien sûr.
Donc,
alors, tiens, pour revenir à toi, toi, tu as dû t'exiler. Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors, moi, j'aimerais déjà aussi préciser quelque chose, c'est que moi, je suis croyante, tu vois. J'ai très toujours eu la foi depuis ma tendre enfance. Et j'ai eu un appel interne fin décembre, mi-décembre, pour me dire, Dalila, faut que tu partes, et je comprenais pas. Donc, j'ai fait une valise et je suis partie à l'étranger, sans savoir pourquoi. Et en effet, un mois et demi plus tard, j'ai compris, parce que j'ai appris par la presse, des amis qui m'ont envoyé un article de presse qui apparemment me concernait, puisqu'il était très détaillé, il me ciblait, que j'avais été condamnée à un an en ferme, pour avoir juste cité le nom des juges de mon affaire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vis dans un pays qui respecte les enfants, qui respecte les droits, malgré tout ce qu'on peut dire de ce pays. Je suis sous le charme. Après, moi, j'ai pas peur de dire que je suis en Algérie, parce que l'Algérie, c'est grand.
D'accord.
C'est très difficile de me retrouver. Et puis ici, je veux dire, ils connaissent mon histoire et ils me soutiennent. Donc ici, en Algérie, tu violes un enfant, dans la minute, t'es mort. Pourquoi ? Parce que ici, la population a le droit, et c'est dans leur gène, de nettoyer toutes les personnes qui violent, qui abusent des enfants. C'est comment te dire, c'est dans la culture. L'enfant parle, il n'y a pas de tergiversation, de présomption d'innocence, de il a raison, il a tort. Il y a un enfant qui parle pour dénoncer des faits aussi graves, il n'y a pas photo, il l'a subi, donc la personne, elle est nettoyée dans la minute. Il n'a même pas le temps d'aller au tribunal. Il n'a même pas le temps d'être entendu par un avocat ou par un juge. C'est terminé.
C'est pas le discours de Macron cette semaine qui nous a expliqué que en fait il faut généraliser la fin de la peine de mort dans le monde parce que ça ne servait à rien et que blabla et blabla quoi. Par contre, il faut l'euthanasie. Il faut pas la peine de mort pour les criminels, mais il faut l'euthanasie pour nous tous. Voilà.
Voilà. Et quand tu vois un pays comme l'Algérie où moi j'étais agréablement surprise de voir comment on traite les enfants ici et notamment les enfants qui ont des handicaps. Ici c'est normal, un enfant qui est handicapé va à l'école normalement, il n'a pas à faire un dossier de malade pour avoir le droit d'avoir une assistante et d'avoir le droit de rentrer dans une école. Ici un trisomique 21 en France, je sais pas si tu as vu, souvent il est déscolarisé, il est dans une ITEP, des choses comme ça, enfin je sais pas comment on appelle ça là. Les trucs où tu t'es assisté pour les enfants handicapés qui sont carrément exclus. D'accord. De la société. C'est un handicap dramatique et l'enfant, il est complètement à la marge de la société, il est exclu. Et en plus, moi, je me rappelle quand j'étais enceinte de mon fils, j'approchais la quarantaine, j'avais 39 ans, on m'a forcé, mais vraiment forcé la main pour que je fasse une amniosynthèse.
C'est quoi ça?
Une amniosynthèse, en fait, c'est-à-dire qu'on va prélever un peu de liquide amniotique de la poche où se trouve ton bébé, dans ton ventre, pour vérifier s'il n'a pas des malformations. Parce que approcher la quarantaine pourrait suggérer que ton enfant va être trisomique.
D'accord.
Et moi, j'ai eu un débat sans nom avec mon ex, avec la gynéco. On lui dit, attendez, mon enfant, c'est mon enfant, que ce soit trisomique ou autre. C'est quoi le problème? Je veux dire, c'est un enfant, c'est un être humain. Ah non, parce qu'ici, on avorte trisomique 21, pardon. On tue l'enfant. Et en Algérie, j'ai rencontré un trisomique 21, on est allé boire un verre. Ben, ils sont adulés, ils sont reconnus comme des êtres, tu vois, qui génèrent beaucoup d'amour parce qu'ils sont hypersensibles. Et ils s'intègrent dans la société comme tout le monde. Et ici, les handicaps, c'est normal.
Oui, mais le fait que là, tu ne sois pas en France, est-ce que tu continues, est-ce que tu arrives à militer comme tu pouvais le faire en France, par exemple?
Bah, bien sûr, tu as bien vu l'affaire Sophie Alric. Tu vois bien que je l'ai menée d'ici. D'ailleurs, ouais. Tu as participé. Voilà, où elle s'est retrouvée en HP très rapidement et on a réussi, j'ai réussi à orchestrer plusieurs groupes d'ici et c'est comme ça qu'on a réussi à la sortir parce que je me suis, bien sûr, j'ai un petit réseau maintenant hein, d'avocats, de juges, de médecins, d'amis, de lanceurs d'alerte, etc. Et on s'est orchestré tous à notre manière pour pouvoir la sortir de là. Et en 10 jours, j'ai fait le texte, j'ai fait un courrier au juge qui l'a sorti de là. C'est pas son avocat ni ses avocats qui l'ont sorti de là, c'est moi. D'accord. D'ici, d'Algérie, tu comprends?
D'accord.
Et si tu veux, je te partage.
Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, ce que je suis en train de comprendre, c'est que il faut travailler sur l'enfance en France de l'étranger, parce que en France, ce n'est plus possible en fait.
Non, tu peux pas parce que tu es ciblé. Et moi, je te raconte, tu sais bien que j'ai vécu plusieurs tentatives de meurtre. J'ai même envoyé quelqu'un en prison, même si j'ai vécu 4 mois. Voilà, la personne a quand même avoué qu'elle voulait me tuer alors qu'elle ne me connaît pas. Donc, on sait bien que c'est la fameuse loge Atanor hein, qui est missinée par les membres de la secte FM. Donc, oui, en effet, je pense que. Et aujourd'hui, moi, je suis quand même privée de mes enfants de manière illégale, puisque aujourd'hui, le seul argument, j'ai réussi à tout démonter dans leur dossier, parce que leur argumentaire, c'était le syndrome d'aliénation parentale, qui est pourtant interdit. Ils m'ont infublé du syndrome, de l'histrionie. L'histrionie, j'attaque au pénal et au civil le psychiatre qui l'a balancé, cette histrionie, puisqu'elle était infondée, et j'arrive à le prouver. Donc, les juges ne peuvent plus, quand tu es dans une affaire pendante comme celle-là, où on a une attente de jugement et d'audience pour un jugement contre ce psychiatre, on ne peut plus utiliser l'histrionie pour m'attaquer dans mon dossier. Donc, aujourd'hui, tu sais ce qui est utilisé pour m'empêcher de voir mes enfants ?
Non.
Le complotisme. Je suis complotiste. Les juges balancent cet argument pour m'empêcher d'entrer en lien avec mes enfants. Ça n'existe nulle part dans la loi. Tu vois, c'est de l'abus de pouvoir, encore une fois. C'est encore la présence du réseau. Parce qu'on marche sur la tête, complotiste. Madame est complotiste, donc elle ne peut pas voir ses enfants. Mais allô, quoi. En plus, tu viens de le dire toi-même, le Parisien confirme que les complotistes avaient raison.
C'est vrai.
Voilà.
En tout cas, sur l'affaire Epstein, ils n'ont pas encore tout confirmé sur tout le reste. Ils commencent, hein. Mais par exemple, Ouest France avait confirmé que l'élu LFI de Vendée, je crois, c'est ça, qui était un pédocriminel, était membre d'un réseau. Là aussi, il commence. Ouest France, mais bon, c'est Ouest France, c'est la presse quotidienne régionale, c'est pas la presse parisienne, donc la presse parisienne, les grands médias parisiens s'en foutent, quoi, en fait, en gros, faut dire les choses.
Il a lancé le terme, réseau, donc on est bel et bien sur du réseau, ça commence à sortir, il faut être patient, il faut pas lâcher, il faut continuer, ça c'est ma devise, on ne lâche rien, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est, il faut continuer à résister. Moi j'avoue que je suis beaucoup plus libre en Algérie, malgré tout ce qu'on aura pu dire sur l'Algérie, je suis un peu plus épanouie ici. Je me sens enfin respectée, entendue. Et puis, ce que j'apprécie, voilà, c'est la place de l'enfant. C'est hallucinant. On a l'impression que l'Algérie a vécu en autarcie et qu'elle ne s'est pas laissée manger par, tu sais, les grands mouvements de l'ordre mondial qui dit que voilà, l'enfant, la sexualité de l'enfant à l'école, les VARS, etc., qu'un enfant, quand il parle, il ment, etc. Tout ça, ça n'a pas passé la barrière. Et donc, c'est encourageant parce qu'on dit que...
Vas-y.
Ouais, c'est encourageant parce qu'on se dit qu'il y a quand même des pays, quand ils ne rentrent pas dans l'industrialisation, dans ces mondes d'élite, ils évoluent positivement, tu vois.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais comment vont tes enfants ? Est-ce que tu as des nouvelles de tes enfants ?
Non.
Rien de rien.
Non, c'est très dur pour moi. J'en ai aucune, malheureusement. Et je pense que ça doit être dur pour eux parce qu'ils sont à l'adolescence, là.
Ils ont quel âge maintenant ?
Ils ont 12 et 14. Ils vont avoir, Camille va avoir 15 ans le 17 juillet. Et Milo aura 13 ans le 5 août. C'est dur pour moi d'en parler.
On comprend ton émotion. C'est évidemment, c'est un drame. C'est-à-dire que même les criminels ont le droit de voir leurs enfants. La justice leur permet de voir leurs enfants. Et là, le fait que tu as dû t'exiler, donc du coup, tu n'as aucune nouvelle et on t'interdit de voir ses propres enfants, c'est inhumain.
C'est illégal. Tout est illégal. C'est... Enfin, si j'étais si folle ou si machin, on s'en foutrait, quoi. Mais là, c'est la preuve que ce que je dis dérange beaucoup et les met en danger. Donc, je suis une véritable lanceuse d'alerte. C'est comme ça que je le comprends. Je me dis, ben voilà, c'est peut-être le prix à payer pour participer à la chute de systèmes complètement corrompus et délétères pour nos enfants. Parce que, voilà, moi, je peux pas changer. Jamais je céderai. Moi, le deal que j'avais, c'était de me taire et de rentrer dans leur secte et être moi-même.
Mais est-ce que tu n'as pas peur, est-ce que tu n'as pas peur que ils aient, on va dire, le cerveau lavé et que à 18 ans ou après, eh bien, soit tu es oublié, tu ne te reconnaisses plus, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est...
J'ai pas peur du tout parce que j'ai la foi. Et je sais qu'il faudra le temps qu'il faudra à mes enfants. Je respecterai le temps qu'il leur faudra. Les fois où je les ai vus encore il y a 2 ans, mes enfants, mon fils m'avait fait un dessin où il m'avait dessiné au milieu et sa sœur d'un côté et lui de l'autre. Il n'y avait pas de père, il n'y avait rien d'autre. Ça voulait clairement dire « Maman, viens nous chercher, c'est quand tu veux ». Et pourtant, je ne les avais pas vus depuis longtemps. Et on se voyait surveillés pendant 1 heure, tu vois. Donc, on ne peut pas parler comme on le faisait, on se câlinait et tout. Mais j'ai bien vu, et quand à la fin de l'heure de vie médiatisée, ils ne voulaient plus partir, ils voulaient rester avec moi. Donc, tu vois, l'amour qu'on a entre nous est indélébile. C'est quelque chose qui, je veux dire, un lien mère-enfant, il est indestructible. On peut nous dire, nous faire ce qu'on veut, quand on se retrouve, on se reconnecte. Tu vois, il y a un lien qui se crée au moment où l'enfant rentre dans notre ventre, se crée dans notre ventre, et il est indestructible. Et je le vois même avec ma propre mère, mon propre père, c'est pareil. Il y a juste que mon ex, lui, il n'est pas dans ce mouvement-là. C'est un garçon qui n'a pas vécu l'amour parental. Il a lui-même été dans ses réseaux, donc il n'en est pas capable. Il n'a pas été soigné parce qu'il n'a pas eu ensuite derrière, tu vois, de thérapie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même était victime?
Tout à fait. C'est ce que m'ont dit mes enfants et ce que lui m'avait aussi dit du bout des lèvres. Donc, et ses deux parents étaient très délétères, tu vois. Moi, ce que j'ai appris, parce que je me suis beaucoup renseignée, j'ai appris qu'en fait, les enfants, quand ils sortent de là, il faut reconnaître leur douleur et leur souffrance, leurs paroles. Moi, je l'ai fait depuis le début. J'ai rien lâché, tu vois. J'ai pas abandonné la plainte, comme l'ont fait certains parents. Et ça, c'est délétère pour un enfant. Parce que si tu négocies avec les services sociaux, avec les juges, de voir l'enfant 1 heure par mois ou 2 heures par mois, mais en contrepartie, il faut que tu abandonnes la plainte pénale, c'est-à-dire que tu reconnaisses et que tu acceptes qu'il se fasse violer ou dans la secte ou par le père, etc. Là, c'est très, très violent pour un enfant parce que ça veut dire que tu acceptes toi aussi qu'il subisse ses horreurs et que tu fais avec, tu vois. Moi, j'ai jamais accepté. Donc, mes enfants, ils savent que je suis de leur côté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. D'un autre côté, je me suis aussi renseignée auprès des victimes qui sont devenues grandes et qui sont sorties de ces sectes. Et je vais reparler d'Anneke Luca, qui est pour moi un exemple, parce qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup de thérapie, elle soigne énormément de victimes, ça on ne sait pas, parce qu'elle est assez pudique, elle n'en parle pas, mais elle fait des conférences, elle fait des soins adaptés, et elle m'a clairement dit que mes enfants, elle pourra m'accompagner à les sortir de là très très vite, pour qu'ils puissent retrouver un équilibre. Et ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle, quand elle était dans les réseaux comme d'autres victimes, n'avait pas un parent positif, un parent aimant, un parent qui avait la foi, et un parent qui les soutenait comme je le fais moi. Elle me disait, moi, j'étais obligée de m'inventer un monde ou une représentation positive qui soit dans le sens du divin pour pouvoir contrer les violences que j'étais obligée de subir ou de faire. Elle me dit, toi, l'avantage de tes enfants, c'est qu'ils ont cette figure. Puisque ils me connaissent et puis que, voilà, malgré tout, ils ont le souvenir de qui je suis. Et c'est pour ça aussi que je fais des interventions publiques. C'est pour qu'ils puissent quand même me voir et savoir que je suis toujours dans le combat, que je les aime, que je pense à eux, que je les lâcherai pas et que je reste droite. Et ça, tu vois, c'est très positif pour les victimes parce qu'elles savent qu'on peut contrer l'obscurité même si on n'a pas de moyens, même si on n'a pas les ressources de ceux qui dominent le monde aujourd'hui. Mais on a cette foi incommensurable et on a un soutien divin, quoi qu'on en dise, qui est en nous et qui fait qu'on peut contrer très facilement, même seul, ces obscurs.
Oui, on peut. C'est-à-dire qu'il faut. Parce que souvent, les gens, justement, se sentent seuls d'abord. Et parfois, lâchent prise. Hein, et il faut leur dire qu'en réalité, ils ne sont pas seuls. Que,
Tout à fait.
qu'il y
Il
a.
faut apprendre à travailler.
Ah oui! Il y a
À travailler
énormément de
tout seul.
cas en France, bien plus qu'on ne le pense. Et ils ne sont pas des mauvais parents, parce que souvent aussi, les gens se font prendre leurs enfants. C'est notre cas par rapport au tien, mais ils se font prendre leurs enfants peut-être par les aides sociales, etc. Et ils pensent
Parce que
que,
là,
ils culpabilisent, ont des mauvais parents. Ce n'est pas forcément le cas.
voilà. Je vais te dire que, en fait, ceux qui sont justement délétères, ceux qui sont vraiment des mauvais parents, tu ne vas pas les entendre. Ces gens-là, ils savent qu'il y a du dossier sur eux, ils ne vont pas parler. Ceux qui vont parler, c'est ceux qui sont clean. Tu vois? Et après, il y a aussi ceux qui ont encore des enfants ou qui ont des moyens de pression sur les autres membres de leur famille ou qui ont peur aussi de pour la réputation, parce que tu vois bien, on te salit sur tous les plans, on m'a traîné dans la boue sur tous les plans, j'ai même pas regardé, mais j'ai eu des échos. Je veux dire, j'ai tout vécu, quoi. Je veux dire, il faut comprendre que quand tu es clean, on peut t'attaquer sur tout ce qu'on veut, toi, tu sais qui tu es. Les gens qui t'aiment savent qui tu es. Donc, ils savent très bien que c'est des mensonges. Donc, on fléchira pas. Aujourd'hui, c'est un combat, certes, le pot de terre contre le pot de fer, mais malgré tout, le pot de terre, il a des ressources. Et surtout, il peut se remplir d'eau. Et c'est une ressource qui est infinie.
Alors,
Donc,
une
il faut.
auditrice nous dit, le Maghreb culturellement a toujours attiré les pédophiles, Gide, Jacques Lang, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, etc. Enfin, je dirais le Maroc, plutôt le Maroc, je
Oui.
pense. Disons le Maroc, hein, parce que c'est, j'entends pas ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Égypte, voilà. Mais en tout cas, le
Bah, c'est la
Maroc,
base arrière du gouvernement français, le Maroc, quand même. Hein.
ouais. C'est vrai que. Quoique Jacques Lang, parce qu'on parle de Jacques Lang, il est là, hein, vous inquiétez pas, il est à Paris. J'ai même pu l'interroger. J'ai même pu l'interroger. Il habite toujours Place des Vosges, il est bien. Hein. Malgré, c'est ça qui est dingue. C'est que regarde, Jacques Lang est mouillé dans l'affaire Epstein. Il est peut-être un des plus mouillés, c'est possible. Ou peut-être que il est juste l'arbre qui cache la forêt, c'est possible aussi. Et comme c'est peut-être quelqu'un de connu, bon voilà, et vieux et tout, bon, donc peut-être qu'ils ont le système l'a jeté comme ça. C'est possible aussi. Mais il est tranquille, hein, parce que certains disent sur les réseaux, ah, il est au Maroc, il s'est enfui, ceci, cela. Non, il est à Paris, il se promène avec sa femme,
Imagine,
il est
ça devient
surveillé par
délire.
la police pour pas que les gens l'agressent, et puis voilà, quoi. Enfin, je sais pas, c'est tranquille, quoi.
Pour moi, Jack Lang, c'est Epstein français, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il est à la tête des institutions. Bon, il a démissionné de l'Institut du monde arabe, et enfin, parce qu'on ne comprend même pas ce qu'il faisait là-bas. Mais tu vois bien qu'il est partout, il est connu de tout le monde, il est dans le showbiz. Je veux dire, on se demande ce qu'il fout là, quoi. Mais c'est quoi ce pantin? En plus, il n'est même pas intéressant sur les sujets qu'il aborde. Donc, on voit bien qu'il est là pour faire le lien. On l'a vu grâce au dossier Epstein. On a vu que sa fille également. On a vu des transactions financières. On a vu des préparations avec des petits garçons. On a vu. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, faut ouvrir les yeux, quoi. Bien sûr qu'il est à la tête du réseau Epstein français. Quoi? Je veux dire, et c'est pour ça qu'il est intouchable. C'est pour ça qu'il peut encore se promener librement en ville. En plus, en plein Paris. Et en plus, il a une garde rapprochée. Non, mais allô? C'est pas normal.
Ah oui,
Dans un pays,
je peux.
les droits de l'homme mondial, il y en a juste signé les droits de l'homme ici, mais c'est pas appliqué.
D'ailleurs, je vous invite à aller
Les
sur
droits de
GPTV
l'homme.
Investigation. Voilà, j'ai eu Jacques Lang. Voilà, il était derrière moi, je l'ai eu. Et je lui ai posé des questions. Bon, il n'a pas voulu y répondre, mais j'ai posé des questions sur Epstein. Mais il était tranquille, quoi. Voilà. Et il habite Place des Vosges. Moi, je me demande comment est-ce qu'un mec qui n'a fait que de la politique, hein, parce que je sais pas, il n'a pas été grand chef d'entreprise, il n'a pas été. Bah, je sais pas moi, c'est pas quelqu'un qui a créé des choses, il n'était pas dans le privé. Comment a-t-il fait pour être propriétaire? Bah, je pose la question. Hein. Place des Vosges, c'est 20-25 000 euros du mètre carré. Voilà, c'est-à-dire qu'il habite au moins 100-150 mètres, parce que moi j'étais en bas de chez lui, Place des Vosges, et c'est des appartements de hauteur de plafond de 5 mètres, et c'est des appartements de plusieurs centaines de mètres, c'est-à-dire qu'il a un appartement entre 5 et 10 millions d'euros. Mais comment a-t-il fait alors qu'il n'a été que ministre député? Alors, ministre député, ça paye bien, très bien, mais c'est pas Elon Musk, quoi. Voilà. Pourtant, il a ça. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte, chère Dalila, du niveau de corruption de ce pays. Et je pense très sincèrement que le déficit, les dettes, en tout cas sur les 3500 milliards, je pense qu'il y a bien la moitié de corruption. Il n'y a pas que le social, la fraude fiscale ou des choses comme ça, ou la fonction publique. Il y a la corruption. C'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, on paye sur tout, même pour se garer, il faut se garer même une heure, il faut payer combien de dizaines d'euros, il n'y a rien, même marcher dans la rue, c'est quasiment pas devenu payant. Voilà, ils trouvent des impôts, par exemple, tiens, rien que les taxes sur l'essence, les recettes sont passées de 30 à 60 milliards depuis que Macron est là. Et pourtant, il y a 200 à 300 milliards d'euros de dette, sans compter les emprunts de 300 milliards par an de la France. Donc, il y a forcément de la corruption. Et s'il y a de la corruption, c'est qu'il y a des réseaux, c'est qu'il y a aussi ses enfants, parce que ça aussi, ça fait partie de la corruption. Voilà. Et pourtant... Zéro enquête.
Ouais. Moi, je vais te dire, j'avais investigué à l'époque quand j'ai entendu parler de la fameuse du déficit de la sécurité sociale. J'ai investigué, mais en fait, tout était accessible. Hein. Je n'ai pas fait de grosses investigations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le déficit n'était pas lié aux fraudeurs lambda. Hein. C'était carrément les médecins et les infirmiers qui faisaient les plus grosses fraudes. Tu vois ? Alors qu'on nous fait croire que c'est nous, en fait, que c'est nous la population lambda. Et là, j'ai halluciné. J'ai dit, mais attends, on marche sur la tête. Donc, on n'arrête pas de dire que c'est les cas sociaux de la France qui font des fraudes, qui déclarent, machin, bidule. Non, non, c'est encore pour stigmatiser la population d'en bas. Alors qu'en fait, c'est eux qui se gavent, toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes, il ne faut pas rêver. Les médecins, c'est trois quarts, c'est des francs-macs. Voilà, en fait, t'hallucines, quoi. En fait, tout est accessible, mais si tu ne creuses pas, tu vas rester dans ce qui est... dit de manière très policée à la télé.
C'est évident. Dans les collectivités locales, moi je suis persuadé que du plus bas de la chaîne jusqu'au plus haut, c'est-à-dire le maire ou le président d'Aglo, ça prend de l'argent. Au sein de l'État, avec les agences, 1200 ou 1300 agences, pourquoi faire ? Ça coûte plus de 100 milliards par an. Les IPA France Télé, on a pu voir à France Télé avec la commission parlementaire. Ils se prennent tous des palaces et ceci et cela. En fait, on a bien entendu aussi tous ceux qui se gavent sur le CICE, les entreprises. C'est quand même, je veux dire, avant, la TVA, par exemple, à 95% payait les services publics. Aujourd'hui, ça ne représente que 45%. Ça veut dire qu'il y a 50% qui vont dans des poches de certains. Voilà. Parce que moi, je pose une question. Comment expliquer, si ce n'est par la corruption, que nous avons plus de déficit aujourd'hui en 2025-2026 qu'à l'époque du Covid, où il y avait le fameux quoi qu'il en coûte. Il y a plus de déficit. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, en fait, moi, il faut m'expliquer. J'aurais pu comprendre quand il y avait le quoi qu'il en coûte. Allez, je veux comprendre, t'as pas de problème, chômage partiel, PGE, ce que vous voulez, d'accord. Et là, aujourd'hui, il y a plus tout ça et encore plus de déficit. Ça veut dire qu'on est dans un système où on a des élites et des moins élites, parce que aussi il y en a qui travaillent pour eux, qui se prennent du fric.
Mais bien sûr. Regarde, quand tu vois un chef d'État, normalement, quand il est élu par son peuple, il est là pour quoi ? Pour représenter le pays, pour protéger le pays, pour assurer son avenir, sa pérennité, le bien-être de sa population. On est d'accord. Ça, ce sont ses objectifs. Aujourd'hui, Quand tu vois Macron, depuis qu'il est en place, c'est l'inverse. Tout va à volo. Il a pillé le fleuron de la France, toutes les industries. Je regarde, Alstom, EDF.
1600 entreprises vendues aux Américains.
Voilà. Où tu vois ça? Il est censé prôner la souveraineté française. C'est tout l'inverse. Il a pillé de l'intérieur. Et à chaque fois qu'il vend un truc, t'inquiète pas, il y a une transaction derrière. Le mec, il touche la moitié.
Mais tiens, on va parler d'une chose qui est intéressante aussi. C'est la place de la drogue. Et je pense que drogue et pédocriminalité sont liées. On a eu des députés qui achetaient de la drogue à des mineurs, dont des députés LFI, dont aussi le majordome à l'époque de M. Barnier quand il était Premier ministre. Voilà, tout ça aussi, tout ce monde est lié. On a aussi, tiens, cette transaction de plusieurs tonnes qui a été organisée par les services français à Marseille, oui, et qui ont disparu. Tout a disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. La drogue.
Je suis sûr qu'il y avait une plus de traçabilité, on les a retrouvés
bien sûr.
À Paris.
Cher Dalila, la drogue, il faut dire les choses, la drogue et la pédocriminalité sont liées.
Tout à fait. Il faut savoir que au-delà, c'est les mêmes qui vont faire du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains et du trafic d'enfants. Juste que le trafic d'enfants aujourd'hui, c'est encore plus lucratif que le trafic de drogue. Il y a un lanceur d'alerte aussi, je crois qu'il est décédé depuis, qui était en fait un homme d'affaires, je sais plus de quelle origine il était, tu sais, il a fait un super exposé en disant comment il est rentré progressivement dans la mafia et qu'il avait été happé par justement les loges, et notamment les loges pédosataniques, mais il savait pas au départ qu'il allait y entrer. Donc c'était un fiscaliste, et progressivement, ben on lui a dit, ben tiens, tu peux faire du trafic de drogue, il a dit ok, après trafic d'armes, etc. Et à la fin, il a dit, on lui a amené le summum, on lui a dit, là, tu vas te faire de l'argent, mais comme c'est pas permis, il faudra te taire, et ils l'ont invité à un rituel satanique. Et là, il a explosé, et, je veux dire, toutes ses limites personnelles ont été dépassées, et il pouvait plus, donc il a fait un burn-out, et puis il en est sorti, et ça lui a coûté cher. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est si tabou, c'est tellement bloqué dès qu'on en parle, et c'est qu'on est tellement silencieux quand on le dénonce. C'est parce que c'est ce qui tient le monde aujourd'hui. C'est l'inversion des valeurs. C'est en effet le satanisme.
Bien sûr, bien sûr. Mais ça a l'air choquant quand on en parle comme ça. Je n'invente pas les affaires. Je veux dire, je n'invente pas le fait que le conseiller, un des proches conseillers de Le Cornu, a fait une overdose parce qu'il consommait du 3-MMC, c'est-à-dire de la drogue de synthèse, et il pratiquait le fameux chemsex chez le directeur financier d'Île-de-France. Enfin, je veux dire, je ne l'invente pas. Qui avait-il avec eux en plus? Parce qu'ils ne font pas ça à deux. Je n'invente pas le fait que Monsieur Le Cornu, maintenant, donne des tests de dépistage anti-drogue à l'ensemble des conseillers des ministres. Bon, il donnera pas les résultats, mais enfin, c'est quand même. Enfin, je veux dire, est-ce que on aurait pu entendre ça? Je sais pas moi. Allez, sous François Mitterrand même. Voilà.
Je pense que c'est ce qu'il y avait déjà, mais on n'était pas encore à ce niveau-là. Quoi. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est justement les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est bloqué. C'est parce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on peut s'informer, qu'on peut dénoncer, qu'on peut témoigner. Et c'est ça qui leur fait peur. Parce qu'on révèle ce qui se passe dans l'obscurité et la manière dont ils fonctionnent. Et forcément, quand tu révèles le fonctionnement d'un système complètement corrompu, dominant et dictatorial, eh ben, t'as aussi la possibilité de le contrer. Et c'est ça qui les dérange, tu vois. Mais nous, il faut rien lâcher, il faut continuer ce combat, parce qu'il est eschatologique, certes, mais il est aussi pour notre propre salut. C'est-à-dire, on peut pas continuer à fermer les yeux parce que justement on a peur, ou parce que ça se dit pas, ou parce que ça se fait pas, ou parce que ma carrière, etc. Il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin à son niveau, et puis...
Tu as raison. Mais problème étant... que les gens n'ont pas tous la force que tu as. Comment faire justement pour que les gens, même s'ils font pas ce que tu fais, parce que voilà, ça nécessite une énorme force et beaucoup de courage, et c'est pas donné à tout le monde, Comment faire pour que les gens soient au minimum sensibilisés?
Eh bien, il faudrait déjà que les gens apprennent à sortir de la peur et à se dire qu'aujourd'hui, sur cette terre, on a tous les mêmes droits. Tu vois, on a tous les mêmes droits et que c'est pas parce que il y en a trois qui ont décidé de prendre le pouvoir sur la France que c'est eux qui commandent et qu'il faut se plier à tous leurs desiderata. Ces gens-là ne nous correspondent pas. S'ils ne nous correspondent pas parce qu'on n'est pas des drogués, parce qu'on n'est pas des allumés du sexe au point d'aller violer des gamins ou des animaux, ben on a le droit de s'affirmer et de dire qu'on est contre. On a le droit de dire aussi que nos enfants nous appartiennent, qu'on les aime et qu'on veut pas qu'ils subissent ça à l'école et qu'on ne veut plus des vars à l'école. Ça, on a le droit de le dire. C'est pas énorme en soi, mais c'est déjà un pas qui va faire que en face, ceux qui nous étudient et nous analysent et qui sont à fond sur la fameuse fenêtre d'Overton, je vous conseille d'aller faire un peu de recherche sur ce sujet-là. Vous verrez que quand ils vont voir que déjà rien que Evars, les gens se sont concentrés sur leurs enfants, ça voudra dire quoi? On ne pourra pas passer à la pédocriminalité à court, moyen, long terme. Tu vois? Donc, il faut déjà que les parents se mobilisent chacun pour leurs propres enfants en disant, je ne veux pas d'éducation à la sexualité, je veux qu'on laisse mes enfants tranquilles. Voilà. Et cette loi intégrale qui arrive, c'est justement la porte ouverte à cette fameuse loi Evars. Et donc, on continue à marteler, on donne plus de pouvoir à l'ASE, on donne plus de pouvoir encore aux pédos et on retranche encore les droits des parents. Donc, cette loi intégrale, malgré tout ce qu'on peut penser, derrière, il y a du féminisme, il y a du lobby LGBT, etc. Je l'ai lu. Franchement, ne vous laissez pas avoir. Cette loi, elle a été préparée longuement à l'avance. Parce que...
Et puis, il faut dire aussi... Alors, il y a des petites coupures, donc je vais... alors, je suis désolé, il y a des petites coupures. Il faut aussi dire aussi une chose. L'aide sociale à l'enfance... Il faut vraiment mettre un coup de balai dedans. Moi, je vais donner deux exemples précis. Le petit Louis, qui a été assassiné par des bandits, qui était aussi à l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'il faut dire la chose, moi, il se trouve que j'ai interrogé un môme de l'aide sociale à l'enfance il y a quelques années de cela. À l'époque, il avait 14 ans. Et il m'a dit, il s'appelle Pape Diram. Il a mal viré depuis, malheureusement. Et il est... Il expliquait comment... Parce que nous, on a l'image des orphelinats à l'ancienne, machin, ou la DAS à l'ancienne. Mmh. Et ça, c'est l'image qu'on a, je sais pas moi, du cinéma ou de la télé, j'en sais rien. Eh bien...
Ouais.
Et alors que c'est pas ça du tout. Hein.
Ça te dit, on est influencé par la télé,
bien
par
sûr,
la réalité.
Mais grave.
La DAS a trouvé le monde, parce qu'il y a eu énormément de scandales et on l'a rappelé ensuite à eux.
Ouais.
Tu vois
et en fait, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que le môme que j'avais eu en interview, il m'a expliqué qu'il logeait dans un hôtel de clandestins adultes.
Mmh.
Dans un hôtel de clandestins adultes. Ouais. Il n'allait plus à l'école.
Mmh. Mais moi, j'ai ramené des mamans qui vont t'expliquer ça. Hein. J'ai pu te ramener plein d'autres. Tu connais Nadine Plestan, par exemple?
Oui, oui. J'en ai entendu parler.
Bah, je peux te mettre en contact et je te conseille de l'inviter. Elle viendra te voir sur le plateau de GPTV. Elle a énormément d'éléments là-dessus. Ouais, aussi,
surtout à Courtoisie ici. Hein, surtout à Courtoisie ici.
Là où Courtoisie, l'un ou l'autre. Et elle te donnera énormément d'éléments parce qu'elle a fait une grosse enquête. Elle est très investie, très carrée.
Et ce qui est fou, c'est que dans le meilleur des cas, s'ils ne sont pas dans des hôtels de clandestins, les enfants de 4-5 ans sont placés avec des adolescents de 16-17 ans. Et il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et ça...
C'est le centre de destruction des enfants, des êtres humains. C'est le centre de destruction. Nous, on a des preuves à pléthore. Je te rappelle quand même que l'ancien secrétaire d'État à la protection de l'enfance, comment il s'appelle, celui qui était avant Belloubet,
je ne sais plus.
Je ne sais plus non plus.
Bon,
bref,
c'est pas grave.
Lui avait sorti, il avait sorti une loi parce que justement on avait été nombreux à dénoncer le fait que les enfants se retrouvaient tout seuls à l'hôtel. Mais tout seuls. Tu avais des enfants de 4-5 ans qui se retrouvaient tout seuls dans un hôtel. Attends, on nous enlève les enfants parce que soi-disant on les aime trop pour le remettre où? Tout seul dans un hôtel où tu as des passes, T'as des gens qui peuvent venir les voler, les violer, les torturer.
Grave.
Non mais allô, le gamin il a plus de soin, il a pas de soin.
Bien sûr. Et encore une fois, le Parisien a parlé de 15 000 mômes de l'ASE qui se prostituent. Tiens, j'ai une auditrice, et il nous reste 2 minutes, qui me dit « Madame Schiappa a déclaré qu'elle pratiquait la sorcellerie, qualifiée crime dans la Bible. Comment ne pas croire à un complot sataniste ?»
Quoi ? C'est vrai ? Et c'est elle qui l'a... Et elle, elle nous a sorti ses lois. Ses lois, il fallait descendre le consentement. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, oui.
Le descendre à 12 ans, je crois que c'était ça son projet.
Dernière minute, comment te soutenir, chère Dalila, voilà, comment te soutenir, comment te joindre, dis-nous, il te reste 1 minute 20.
Bah écoute, moi je vais officiellement une audience à la chambre correctionnelle de Sarreguemines le 7 septembre.
D'accord.
Matin. Donc voilà, si vous voulez être présent, vous pouvez. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Sinon, je suis sur Telegram et sinon je suis sur X.
Comment s'appelle ton Telegram?
Soutien à Dalila Sadok.
Voilà.
Et X, c'est Dalila ou Pimpom 1.
Allez sur Telegram, soutien à Dalila Sadok, soutenez-la, c'est une maman avec énormément de courage, qui se bat pour ses enfants et qui se bat aussi pour les enfants des autres, pour le coup. Donc voilà, Dalila, soutien à Dalila Sadok sur Telegram. Merci à vous pour vos questions, merci à vous d'avoir été si nombreux. Passez un excellent week-end, on se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 4 juillet 2026, de 10h30 à midi, et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.